Le roman policier, le roman noir ou encore le thriller sont des genres littéraires qui vont bien au-delà de la seule distraction, du seul plaisir de passer un bon moment de littérature. Très souvent, ce sont des révélateurs de l'état de notre société, des failles, voire des abîmes qui fracturent de larges couches sociales ou encore des non-dits de l'histoire officielle, de l'histoire telle que souhaiteraient l'écrire les dominants. C'est tout à fait le cas avec ce thriller coup de poing de l'écrivain français Roger Martin et ce titre « Jusqu'à ce que mort s'ensuive ». La vie de Roger Martin, en raccourci, c'est la politique et le polar qui se rejoignent. Il a été adhérent des Jeunesses communistes révolutionnaires, puis du Parti communiste français, et a été adjoint à la culture de la ville de Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle. Cette ville est d'ailleurs évoquée dans « Jusqu'à ce que mort s'ensuive ». Parmi ses centres d'intérêt, on peut évoquer le Ku Klux Klan, à propos duquel il a écrit deux romans pour la jeunesse, « Des ombres dans la nuit » et « Les cagoules de la terreur ». Jusqu'à ce que mort s'ensuive donc. Et c'est l'histoire récente des États-Unis, dans sa déclinaison la plus sombre, que Roger Martin dévoile page après page dans ce roman. Historiquement, les États-Unis se sont construits sur la plus effroyable des dominations, la traite des Noirs africains, et le fait de réduire en esclavage des millions d'êtres humains. La grandeur de l'Amérique est à mettre en perspective de plusieurs siècles d'exploitation, d'humiliation, de torture, de viol, de lynchage, d'exécution sommaire, de ségrégation, etc., etc. On parle ici de racisme quotidien, du racisme le plus sournois, mais d'abord du racisme le plus violent, le racisme qui dénie à l'autre le droit de vivre. On sait bien que les États-Unis sont loin d'avoir tourné cette page. Le racisme est un poison dont il est difficile de développer l'antidote. Et puis c'est un poison qui fait appel aux instincts les plus bas. Et en ce sens, il est facile pour des politiciens de mobiliser le racisme pour justifier de lâches décisions ou pour séduire leur électorat. Donald Trump ne s'en prive pas, par exemple, dernièrement, en direction de jeunes femmes de couleur, dans le seul objectif de mobiliser un électorat sensible à sa vision de l'America First. Mais revenons à Jusqu'à ce que mort s'ensuive, roman coup de poing qui nous entraîne dans les rangs de l'armée américaine durant la Deuxième Guerre mondiale. Une armée qui n'a pas encore procédé à sa déségrégation, qui interviendra officiellement, avec des guillemets, en 1953, au moment de la guerre de Corée. Une armée raciste donc, et il ne fait pas bon être noir dans ses camps d'entraînement en 1942-1943, notamment dans ses États du Sud, tels le Mississippi. Et puis tout cela s'est évidemment prolongé au moment du débarquement sur les côtes normandes en juin 1944. Quelle image avons-nous? Quelle image ont les Françaises et les Français à propos des GIs venus libérer la France et l'Europe de la barbarie nazie? Globalement, une image extrêmement positive, une image de libérateur, empreint de valeurs de liberté et par extension de tolérance. C'est pourtant cette armée US-là qui était largement gangrenée par la haine des Noirs. Je vous propose tout de suite un premier extrait de Jusqu'à ce que mort s'ensuive. On est quelques jours après le débarquement, on est sur une plage normande, et on assiste à la pendaison d'un soldat noir, pendaison pour un viol qu'il n'a pas commis.
Il est au pied de l'échafaud. Cette marche de bois qu'il va falloir gravir sans défaillir. Les 6 soldats au garde-à-vous impeccable, 3 de chaque côté de l'allée miniature improvisée, sont tous nègres. Parmi eux, Gary, le pauvre petit gars. Il aperçoit la larme qui coule sur sa joue gauche, les mâchoires des autres soldats bandées comme des pièges à opossum. Il ne se demande pas longtemps pourquoi on les a choisis. Il a compris, à l'instant même, où il a découvert plusieurs centaines de soldats noirs de la 958e compagnie au garde-à-vous. Il faut donner une leçon à ces satanés négros pour sûr. Qu'ils apprennent ce qu'il en coûte de toucher à la femme blanche. Qu'ils fassent entrer dans leur caboche crépue que le haut commandement n'en a rien à faire de ce que pensent les libéraux de Washington, Roosevelt l'infirme et sa communiste de bonne femme. Pas plus d'ailleurs de ce qu'en penseront les Anglais ou les Français. Personne ne parle. Tout au plus entend-on par moments une toux de fumeur, un raclement de gorge. Un ordre a claqué. Un caporal noir, qu'il n'avait pas encore remarqué, se présente devant lui, le fait pivoter sur lui-même, lui réunit les bras dans le dos, lui croise les poignets et les attache. Puis, il imprime un léger mouvement qui l'amène en quelques pas à portée de la première marche. Une pression dans le dos. Il faut y aller. À la troisième marche, ses jambes se dérobent. Il trébuche, il va tomber. Instinctivement, il essaye de projeter ses mains devant lui avant que la cordelette de cuir qui lui scie les poignets lui signifie l'inutilité de son geste. Il est parvenu à se redresser et il gravit les marches restantes sans trembler. La plateforme lui paraît minuscule. Il s'efforce d'ignorer la potence avec sa corde qui pend lourde et droite et que la brise marine ne suffit pas à faire bouger. Deux MP l'encadrent toujours. Le colonel se tient juste en face de lui. À ses côtés, le père Davis et un homme qu'il ne connaît pas, en costume civil. Les deux MP l'empoignent chacun par un bras, le font avancer au centre de la trappe, dont les arêtes saillent dans le plancher de bois fraîchement découpé. Le colonel a plongé la main droite dans sa veste d'uniforme. Il en tire une liasse de feuillets pliés en quatre, qui déploie avec une lenteur étudiée, ajuste une paire de lunettes au vert en demi-lune, et, dans un silence irréel, se met à énoncer d'une voix grave, rauque parfois, les décisions de la cour martiale. Robert Bradley n'écoute pas, il connaît tout cela par cœur. Ces dernières minutes, il veut les passer avec Amy et les enfants. Il ferme les yeux, écrase ses paupières à s'en faire monter le sang à la tête, se noie dans le va-et-vient de milliers de petites taches qui se donnent la chasse dans une espèce de flaque mouvante qui change sans cesse de forme et de couleur. Ses oreilles bourdonnent. Il n'entend plus rien que des rires d'enfants, et aussi les petits cris faussement effarouchés d'Amy quand il l'enlace et embrasse son cou, juste au-dessous de l'oreille gauche, à la naissance de ses cheveux. Il sent qu'on le touche, il se relâche d'un seul coup, se dégonfle comme un ballon de baudruche. Le rêve s'évanouit. Le colonel a replié les quatre pages du jugement et les fait disparaître dans sa veste.
Ainsi, jusqu'à ce que mort s'en suive, plonge ses racines dans les années 40. Mais c'est sous forme de retour en arrière et de témoignage, car c'est bien une histoire contemporaine au début du XXIe siècle. Douglas Bradley, jeune noir de 22 ans, est un brillant étudiant. Il envisage d'entrer à l'académie militaire et a déposé un dossier d'admission en ce sens. Rien ne peut s'y opposer, il est en réussite dans ses études. Son père, William Bradley, est un cadre important chez Coca-Cola. Douglas a été élevé dans le sens de valeurs d'intégration à la société américaine, dans le sens du respect de la nation américaine et du rejet de ce que peuvent incarner certains mouvements noirs. En clair, la famille Bradley se retrouve tout à fait dans le camp conservateur, respectueux du travail, du goût de l'effort, consciente que l'Amérique est le pays le plus puissant et le plus juste pour celles et ceux qui le méritent. Et pourtant, le dossier d'admission de Douglas à l'école militaire est rejeté sans plus d'explication. Et Douglas va chercher, enquêter, tout d'abord pour connaître les raisons de ce refus et ensuite pour en comprendre les racines les plus anciennes. Le point de départ, le refus de l'armée américaine d'intégrer Douglas, c'est le grand-père de Douglas, Robert Bradley, qui a été jugé et pendu pour un viol sur une Française juste après le débarquement de Normandie. C'est l'extrait que nous venons d'écouter. Ce grand-père, pendu sur les côtes normandes en 1944, c'est donc une sombre affaire qu'ignorait complètement Douglas, une sombre affaire que lui cachait son père, autrement dit le fils du condamné à mort, qu'il lui cachait ainsi qu'à tout son entourage pour, d'une certaine manière, renier son père et tracer au mieux son plan de carrière au sein de Coca-Cola et de la bonne société américaine. Et c'est donc cette sombre affaire que va se mettre à creuser Douglas. Et cette quête, cette enquête, va le conduire à rencontrer une famille dont il ignorait jusqu'à l'existence. L'existence des Noirs en Floride, des Noirs qui, pour ce qui les concerne, ne veulent aucunement renier leur histoire, leur passé, leur lutte. Dans l'extrait qui va suivre, on est à Tallahassee, en Floride, où vivent dans les quartiers noirs la sœur de William Bradley, Rosa, c'est-à-dire la tante de Douglas. Il vient juste de la retrouver dans le cadre de l'enquête qu'il mène concernant son grand-père.
Tout en parlant, elle avait soulevé le couvercle de la boîte. Il s'agissait en réalité d'une caissette de bois brut abîmée sur un côté. Sur le couvercle et les côtés, des inscriptions à la peinture kaki pratiquée au pochoir indiquaient qu'elle avait contenu des grenades. Elles étaient en partie effacées, mais Douglas devina des suites de chiffres et la mention US Army. Pendant qu'on se préparait à exécuter son mari, ta grand-mère travaillait pour la défense. Il n'y avait plus d'ouvriers blancs dans les usines d'armement, quelques vieux seulement. Le gouvernement a recruté des Noirs, mais eux aussi ont fini par être appelés sous les drapeaux. Il a fallu recourir à une main-d'œuvre féminine. En Floride, les femmes noires étaient en majorité, de loin. Les ouvrières avaient le droit de rapporter les produits défectueux, en particulier ce type de caissette. On s'en servait pour construire de petits meubles ou comme bois de chauffage l'hiver. Celle-ci, ta grand-mère n'a jamais voulu s'en séparer. Ce n'est que depuis qu'elle perd la tête que je l'ai apportée chez moi. Elle s'exprimait sur un ton égal, sans chercher ses mots, assise très droite, ses mains lissant inlassablement les plis imaginaires sur sa petite robe de coton verte. Lui, de trois quarts, buvait ses paroles, incapable de détacher son regard de ce profil qui avait quelque chose de digne et de douloureux, de familier aussi. La caissette sur ses genoux, le couvercle maintenu par sa main gauche, elle en effleurait à présent le contenu du bout des doigts. Des planchettes de quelques centimètres de hauteur divisaient l'intérieur en quatre compartiments inégaux. Tout ce qui reste de mon père tient dans cette petite boîte. Une vie humaine enfermée dans un espace aussi ridicule. Et son corps, il ne vous a pas été rendu ? Jamais. Tout ce que l'on croit savoir, c'est qu'il est quelque part en France. Les autorités militaires ne nous ont pas informés de l'endroit où il est enterré. Sans doute pourrit-il au fond d'une fosse commune avec ceux d'autres soldats exécutés. J'ai écrit une fois à ton père à ce sujet. C'était il y a une vingtaine d'années. Je venais d'apprendre sa nomination. Je lui ai demandé de faire tout son possible pour apprendre où se trouvait la dépouille de notre père. Il ne m'a jamais répondu. Douglas eut un mouvement impulsif. Il tendit la main vers sa tante, la referma sur son poignet. Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux.
Jusqu'à ce que Mort s'en suive est un roman palpitant et foisonnant. Roger Martin se situe résolument du côté des opprimés, des prolétaires, des travailleuses et travailleurs, des Noirs exploités, racisés par une classe de Blancs possédants et avides de posséder toujours plus. Roger Martin nous embarque par exemple du côté de la guerre en Irak. Vous vous souvenez ? Cette guerre inévitable parce que Saddam Hussein détenait des armes chimiques qui finalement se sont avérés être une erreur. Dans l'extrait qui va suivre, Jason, le fils de Rosa, autrement dit le cousin de Douglas, est mort à Fallujah durant cette guerre d'Irak. Sa mère se confie à Douglas.
On a tous vu ça 1000 fois à la télévision. 15 jours de combat, 50 soldats américains tués selon les autorités, le triple selon d'autres sources. Plus de 3000 victimes dans l'autre camp. des combattants, mais aussi des femmes, des enfants. Nous n'avons jamais revu Jason, ni son corps. Il est censé avoir brûlé dans un des incendies qui ravageaient la ville. Un capitaine est venu nous remettre un peu de cendre, en précisant qu'on ne pouvait être certain qu'il s'agissait des siennes. On y a cru. Pourquoi aurions-nous douté? Jusqu'au jour où on a appris par un ami de Tracy, qui l'avait découvert sur un site internet, qu'une équipe de journalistes italiens de la RAI avait tourné un document sur la prise de la ville bourré d'informations stupéfiantes. Nous n'avons pas vu nous-mêmes ce document, mais un journaliste de Philadelphie, en tournée de conférence pour la défense de Mumia Abu Jamal, ayant évoqué le mensonge d'État et certains aspects de notre politique. À la fin de son intervention, Tracy et moi sommes allés le trouver. Il ne savait pas grand-chose, mais a promis de se renseigner. On croyait qu'il nous avait oubliés, pourtant un mois plus tard, il a appelé. Il avait pu visionner le reportage et interroger par téléphone ses deux auteurs, Maurizio Torrealta et Sigfrido Sranucci. Ceux-ci lui ont affirmé détenir les preuves que, à Fallujah, notre armée avait utilisé des armes chimiques, du phosphore blanc et du MK-77, une variété de napalm, à l'insu de la plupart de nos soldats. Selon divers témoignages, dont celui d'un marine nommé Jeff Englehart, les faits sont avérés. Plusieurs enregistrements de transmission radio évoquent le lâcher de phosphore blanc sous le nom de code Whiskey Pate. Certains soldats américains qui se trouvaient sur des positions avancées en zone bombardée comptent au nombre des victimes. Avec Tracy, on a contacté des associations qui tentent de faire la lumière sur divers aspects de la guerre en Irak, mais elles se heurtent à des murs. « Ma tante, tu crois sincèrement que notre état-major pourrait cacher de tels agissements ?» Rosa éclata d'un rire sinistre qui le glaça. Toute douleur, toute douceur avait disparu de ses yeux pour faire place à la violence et à la colère. « Douglas, dans quel monde vis-tu donc ? Ignores-tu à ce point notre histoire ? Nos dirigeants mentent au monde entier qui ne les croit pas. Alors ils font la même chose avec notre peuple. Colin Powell et Condoleezza Rice sont noirs, et alors ? Il y a longtemps qu'ils ont franchi la ligne. Ce sont des alibis, des instruments qui font payer le prix de leur réussite à toute notre communauté. Quand j'étais jeune, il y avait un mot pour désigner ces gens-là. Des nègres blancs. Tu veux savoir ce qui nous a convaincus ? Quand nous avons commencé à adresser des lettres au gouvernement, aux sénateurs de l'État, à son gouverneur, le propre frère du président, les choses se sont gâtées. Angela, que nous avions laissée à l'égard de nos démarches, estimant qu'elle était suffisamment frappée par la mort de son mari, a reçu la visite de deux représentants de l'armée, noirs comme par hasard. Si nous n'arrêtions pas notre activité subversive et anti-américaine, la pension qu'elle touchait serait purement et simplement supprimée. Ce n'est pourtant pas grand-chose, mais avec son salaire à la conserverie, ça lui permet d'élever Bobby à peu près correctement. Tracy n'était pas d'accord, mais elle a fini par m'écouter. On a fait ce qu'il demandait, on s'est écrasé.
Un autre extrait, maintenant, dans lequel Roger Martin nous embarque du côté des grandes manœuvres des services secrets américains, peu regardant sur les méthodes, y compris les plus ragoûtantes.
Folliot s'arrêta devant la porte 17, piocha dans une poche une paire de gants de latex, les enfila méticuleusement. Sa main droite s'insinua sous son aisselle gauche, en ressortit un instrument étrange, ressemblant vaguement à un pistolet, en plus long et plus étroit comme des ossiers. De sa main gauche gantée, il baissa la clinche et ouvrit la porte sans le moindre bruit. Il fit trois pas, l'arme tendue à bout de bras. Le vieux était allongé sur le lit. Il ne dormait pas, semblait abîmé dans des pensées douloureuses qui transformaient son visage en un masque tragique. Folliot s'avança jusqu'au lit, pivota, l'engin braqué à hauteur du visage torturé. L'homme ouvrit les yeux. Folliot, ni lut ni surprise, ni peur. Au contraire. Tout à coup, les traits du vieillard s'étaient détendus. Folliot avança le bras gauche, posa sa main sur la poitrine du vieillard, sentit saillir des os. L'autre ne tenta pas de résister, mais prendre des risques était un luxe inutile, réservé aux espions de cinéma. L'arme était conçue pour agir rapidement, efficacement, sans laisser de traces. Il pressa deux fois sur la détente. Quelques fines gouttes pulvérisées éclaboussèrent le visage parcheminé. Deux secousses, très faibles, suivies d'une contraction à peine perceptible. Il sentit la poitrine se soulever, à peine. C'était fini. Le corps se relâcha. Folliot scruta quelques secondes les traits fatigués, crut y discerner quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Les gouttes s'étaient évaporées. Ses yeux firent le tour de la chambre, se posèrent sur une éponge au bord du lavabo émaillé. Il fit couler de l'eau, l'humecta, en débarbouilla le visage apaisé du vieil homme, rinça, renouvela l'opération, glissa l'éponge dans un sachet plastique tiré de sa poche. Alors seulement, il entrouvit sa veste. Sous l'aisselle gauche, maintenue par une bride, pendait un étui de latex. Il y glissa le pistolet à cyanure et sortit comme il était venu. Le procédé avait fait ses preuves. Depuis le retournement, 40 ans plus tôt, de l'espion Bogdan Stachinski, spécialiste au KGB des actions humides, la CIA avait fabriqué et utilisé une dizaine de pistolets à cyanure, avec des fortunes diverses. Castro et Ortega leur avaient échappé, mais l'invention avait fait merveille en Afrique et en Afghanistan. Et les morts par arrêt cardiaque étaient devenus monnaie courante dans les rangs des Black Panthers. Personne ne saurait jamais que celle du père Davis n'était pas naturelle.
Entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, la ségrégation raciale bat son plein aux États-Unis. Mais à la même époque, la communauté noire a commencé à s'organiser. Certains mouvements radicaux ont vu le jour. Certains journaux puissants proposent aux Noirs de relater leurs conditions d'existence. C'est ce dont il est question dans l'extrait qui va suivre, à l'occasion duquel Douglas rencontre Sidney Crooks, un vieux journaliste noir. Dans cet échange, il est notamment question de la W Campaign, double V, parce qu'il s'agit tout d'abord du V de la victoire contre le nazisme en Europe, et ensuite le V de la victoire contre la ségrégation raciale en interne sur le sol américain.
C'est une longue histoire que je vais te conter. Notre histoire. Est-ce que tu sais quand est intervenue la déségrégation de l'armée américaine ? Douglas hocha la tête. En 48 ? Non ? Après un décret promulgué par Truman ? Bravo ! Enfin, presque. Ça, c'est l'histoire officielle. La vraie, c'est qu'il a fallu attendre la guerre de Corée pour que le décret soit enfin appliqué. Il n'y avait pas foule hein, pour aller casser les citrons, comme on disait volontiers. Alors, on ne crachait plus sur les noireaux. Après tout, ils faisaient une chair à canon très convenable. Et comme la plupart du temps, ils ne votaient pas, on risquait pas de mécontenter l'électorat. Mais il existe une réalité plus glorieuse qu'on n'enseigne jamais. La première fois que blancs et noirs ont combattu ensemble, librement bien sûr, j'étais là, côte à côte, tous égaux. Sous un commandement révocable à tout moment par les hommes. Pas de sardines sur les épaules, pas de préséance réservée aux uns, pas de tâches secondaires ni de corvées réservées aux autres. Tout le monde sur le pont, tirant dans le même sens. Tu dois croire que je délire. J'ai oublié le plus important. Aucun des 2800 combattants dont je te parle n'était en service commandé, tous volontaires. C'était en 1937 en Espagne. Nous appartenions à la 15e brigade internationale. Il y avait avec nous des Irlandais, des Canadiens et des Anglais. Nous, on formait deux bataillons, l'Abraham Lincoln et le George Washington, auxquels fallait ajouter la batterie d'artillerie John Brown. C'est là que j'ai vécu le fascisme, les avions italiens et allemands qui nous bombardaient, leurs soldats à l'équipement flambant neuf, leur armement dernier cri. Nous ne disposions que d'un matériel trop souvent vétuste. Les Soviétiques nous faisaient parvenir des avions et des mitraillettes, des fusils et des grenades. Les Mexicains faisaient de leur mieux. Des bateaux français assuraient la livraison. On s'est battus comme des lions. J'ai perdu des tas de bons copains dans la défense de Madrid et au passage de l'Ebre. Je me rappelle la venue d'Hemingway et de Dorothy Parker, de Ring Lardner Jr. aussi. Deux mois plus tard, James, un de ses fils, a été fusillé par les fascistes. On recevait des aides, des paquets, des lettres d'écrivains, d'acteurs, de militants, souvent des femmes, et des mandats. James Cagney, Bogart, Bacall, Jane Kennedy et d'autres. C'est sur le front de l'Ebre qu'on s'est fait le serment de la W Campaign. Ça t'étonne ? Comment on aurait pu prévoir la Seconde Guerre mondiale ? Pas un combattant des brigades, quelle que fût son origine, qui n'ait su que la Seconde Guerre mondiale venait de commencer en Espagne. On nous a laissés seuls, on a trahi les républicains. Si la France, l'Angleterre et les États-Unis l'avaient voulu, Hitler aurait été battu en Espagne.
On ne peut assurément plus regarder les USA de la même manière après avoir lu jusqu'à ce que mort s'en suive. Et cette histoire fonctionne. Elle fonctionne parce que Roger Martin est un chouette écrivain qui sait raconter une histoire pleine de rebondissements, de découvertes. Ajoutons enfin que l'amour est au rendez-vous de la plus belle manière. À ce stade-là du récit, nous en sommes environ à la moitié de jusqu'à ce que mort s'en suive. Et il nous paraît difficile de vous faire partager d'autres extraits. Car même s'il s'agit de vérités historiques, il nous semble préférable que le lecteur ou la lectrice ressente ce que nous avons nous-mêmes ressenti, un véritable choc au fur et à mesure où la vérité se dévoile. Et dans la suite du livre, ce n'est qu'après de nombreux rebondissements que la vérité se fera jour, à l'occasion de rencontres décisives ou improbables. Par exemple, la rencontre entre Douglas et Myriam Boyer concernant le grand réalisateur humaniste engagé, John Berry. C'est pourquoi nous arrêtons ici nos lectures et nous vous rappelons le titre de ce formidable thriller « Jusqu'à ce que mort s'en suive » de Roger Martin. C'est disponible chez Pocket. Nous terminons cette recension avec Billie Holiday, qui elle aussi est évoquée dans le livre avec sa chanson « Strange Fruit ». Strange Fruit, un étrange fruit. On est en 1939, 15 ans avant le boycott des bus de Montgomery en Alabama. Le Ku Klux Klan est à son apogée dans le sud des États-Unis. Les lynchages dont est victime la communauté afro-américaine sont monnaie courante depuis le principe de ségrégation, séparés mais égaux. C'est dans ce contexte que Billie Holiday chante pour la première fois à New York « Strange Fruit ». Cet étrange fruit évoque le corps d'un noir qui a été pendu à un arbre du sud, se balançant au vent, la bouche tordue, nourrissant les corbeaux. Cette chanson est écrite et composée par Abel Miropol, un instituteur du Bronx, membre du CPUSA, Communist Party of the United States of America. Ce dernier resta horrifié en voyant la photo de deux hommes lynchés et écrivit Strange Fruit en s'inspirant des poèmes La Ballade des Pendus de Villon et Le Berger du Roi Louis de Théodore de Banville, plus tard mis en musique par Brassens. Strange Fruit marqua un tournant dans la carrière de Billie Holiday et resta dans ce répertoire jusqu'à la fin de sa vie en 1959. Après l'enregistrement de la chanson pour la face B du 78 tours Fine and Mellow, chanson relatant des violences conjugales, la Columbia et sa radio, CBS, refusèrent de sortir et de diffuser le titre. La chanson sortit chez Commodore, un petit label de jazz indépendant. Selon les témoignages, quand Billie Holiday interprétait Strange Fruit, son auditoire restait de glace et concluait par des applaudissements, d'abord timides et enfin encourageants. Le Café Society, où Billie Holiday se produisait, l'un des premiers clubs de New York détenus par des Afro-Américains, demandait que le service soit arrêté durant le morceau et que la chanteuse ne fasse pas de rappel afin de donner au public le temps de réfléchir sur le sens des paroles. Strange Fruit marqua son époque. Un critique du New York Post décrira cette chanson comme la Marseillaise des exploités du Sud. Plus humblement, Billie Holiday résuma ainsi sa volonté. Cette chanson permettait de faire le tri entre les gens bien et les crétins. Ces mêmes crétins qui la chassèrent d'une ville d'Alabama où elle voulut chanter Strange Fruit. Pour beaucoup, cette chanson fut un des prémices de la protest song et reste jusqu'à aujourd'hui le symbole de la lutte afro-américaine. Dans Jusqu'à ce que mort s'en suive, Roger Martin donne quelques passages traduits de Strange Fruit. Les arbres du Sud portent un fruit étrange, du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines. Des corps noirs qui se balancent sous la brise du Sud, étranges fruits suspendus aux peupliers. Scène bucolique du Sud chevaleresque, les yeux révulsés et la bouche tordue, parfum de magnolia doux et printanier, et soudain l'odeur de chair brûlée. Voici un fruit que les corbeaux dépècent, que la pluie fait pourrir, que le vent dessèche, que le soleil fait mûrir, qui tombera de l'arbre. Voici une récolte étrange et amère. Place donc à Billie Holiday et Strange Fruit.
Crows to pluck for the rain together.